Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon. Emilio Valls-Puig est né à Barcelone en 1924. Si c'est aujourd'hui un vieil homme enthousiaste, la guerre d'Espagne l'a marqué au fer rouge. Étouffé par les souvenirs, Emilio écrira un livre qu'il publiera en 2002 sous le titre « Los Hijos de la República », les fils de la République. Incorporé dans un bataillon près d'Andorre en 1945, Emilio décide de fuir et de gagner la France. Après plusieurs jours de marche en montagne, en plein hiver, il parvient à passer la frontière, mais cette victoire ne sera que de courte durée. Emilio se retrouve interné dans un camp au sud de Toulouse, le camp de Noé. Et pour Emilio, ce camp traduit l'ambiguïté des autorités françaises à l'égard des réfugiés espagnols, une anomalie administrative d'après-guerre.
C'était en 45 et j'étais un déserteur de l'armée franquiste. Et quand je suis passé à la frontière en 45, là, je me suis trouvé dans un camp, que ce camp était encore un camp de concentration ou hébergement. Alors, nous arrivons au camp, le dernier jour de l'an, le 31 décembre, nous étions en face del portal de ese camp, camp de Noé. El camp de Noé, hoy en día, encara hi l'he conegut, per la plupart. Perquè jo hi ha de persones com aquest escrivent i historiana, que ha fet un llibre magnífic sobre la nostra història, que s'appela Genevieve de Dreyfus, Armand. Ella meva, quan jo l'he conegut, aquesta fama, i quan jo dic que jo veia, perquè ell me demanava, en tant que historiana, tot això, de la vull saber, jo dic, ma jo sí, en desertar, que jo passé la frontera, i jo passé, una fa, va passar la frontera, i jo passé per un camp. Com un camp? Aquell que l'any 46. En camp de concentració, 46? Oui. I quan jo dic el nom, jo entendia el nom. J'ai entendu ce nom, mais je ne sais rien. L'histoire du camp, c'est qu'en 41, vu le traitement qu'ils ont reçu, la majorité de ces gens qui sont rentrés dans des camps où c'était de sable, il n'y avait plus rien. Donc, il y a la presse internationale qui s'est manifestée. Et pour atténuer quand même cette atmosphère des gens de discrédit, ils ont créé ce camp très près de Toulouse, construit des baraques et tout, et ils l'ont intitulé hôpital. Dans cet hôpital, on a créé des gens qui étaient très près à mourir. Donc il y a certains qui disent que c'était pas un hôpital, c'était un mouroir. Et je trouve très bizarre qu'on n'en parle pas après. Il faut, comme moi, que j'ai vécu tout ça. Mais bon, c'est l'histoire. Il faisait pas nuit, mais c'était déjà tard. C'était, voilà, le fameux 31 décembre. Et on arrive à l'endroit où il y avait une voie ferrée. On sort de la voie ferrée, et tout de suite, la portail. Camp de Noé. J'ai été 3 mois et là il y avait des réfugiés de toute l'Europe. Le camp était assez grand, Ils nous ont mis au centre du camp. Et ce centre du camp, il y avait tout autour de camp, il y avait 2 rangées de barbelés. Là-bas, il y en avait 5. Et là, on l'appelait Lido. Nous rentrons, et là, il y avait un garde, et on sait que le commandant du camp et certains gardiens avaient pris les vacances, quoi, tous les week-ends. Parce que c'est tombé que c'était dimanche, justement. Mais une personne déjà âgée, que c'était un des gardiens qui avait tout seul, il restait tout seul, il nous accompagne. Là, il nous dit, ça, on l'appelle le camp libre. Bon, j'ai posé quelques questions, parce que je ne pouvais pas, en français. Et quand on arrive là, donc, on ouvre cette porte, que c'est difficile d'ouvrir, entre les barbelés, il nous accompagne dans une baraque, que déjà on sentait qu'il y avait plus de... Il y avait des gens, des gens. Et, voilà, il dit, ça, c'est la baraque des Espagnols. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup d'Espagnols, peut-être c'était... des baraques que peut-être il rentrait une centaine de personnes, avec des lits, mais des lits avec une paillasse, pas plus. Et alors il dit, il appelle un autre, toi, occupe-toi de donner tout ce qu'il t'a donné, tous les utensiles, quoi, qu'il le faut. Et là, ils nous ont rapporté des couvertures, des gamelles. Les gamelles, en détail, quoi. Et c'était, jamais je vais vivre comme ça, en fer, rouillé. Il y en a un qui se présente, et tout de suite un groupe, les jeunes, ils étaient groupes, et demandaient, d'où vous venez? Alors, il y avait des soldats, comme non, qui désertaient, et d'autres qui étaient civils, mais qui s'étaient échappés qui avaient passé en France, quoi. Ils sont tombés dans ce piège, comme nous. Et quand ils ont su que nous avions de famille, les gens disent, oh, vous êtes là, gens. Parce que sans ça, vous ne sortirez pas d'ici. Si, les pieds devant, vous sortirez. Parce qu'il y en avait qui avaient plus de langue, qui étaient là. Et il y avait un groupe, et c'est merveilleux, la fraternité qui peut exister dans ces pareils moments comme ça. Il y a toutes les barrières qui tombent, là on sent, si on voit quand même des gens qui ne peuvent communiquer parce que c'était trop dur, trop, ils ont vécu trop, il y avait encore, dans ces camps, on a trouvé des gens qui avaient fait, espagnols, réfugiés, qui avaient fait la résistance, et qui étaient là. Un autre qui était capitaine de l'armée républicaine, qui transportait sur lui la vie que, en 36, a défendu la République à Barcelona. Il était capitaine. Jamais il avait sorti de camp, lui. Jamais. Et de brigades internationales, on en a connu deux ou trois. Encore il portait aussi le truc en cuir, qui venait de Tchécoslovaquie, parce que la Tchécoslovaquie avait envoyé beaucoup de brigadistes, quoi, pour défendre la République. À toutes ces nations, des Polonais, des Italiens, des Belges, des Roumains, Hongrois, enfin, surtout de l'Europe. Mais que eux, c'est des gens qui ont traversé toute l'Europe, celle qui venait de Théo, en fuyant le fascisme. Pas de racisme, pas du tout. Ces mots de racisme, même, ce n'était pas notre vocabulaire. Et moi, c'est avec les Polonais que j'ai pu entrevoir d'où ils venaient et qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils ont été considérés comme ça. Mais après, il y avait d'autres trucs, qu'on se disait bonjour, parce qu'ils parlaient leur langue. Mais on avait l'impression qu'il y avait peut-être un an qu'ils étaient là. vous voyez, chacun nostalgique de son pays. Les Espagnols et les Italiens, on était presque en face. À minuit, il fallait qu'ils rentrent dans la garde. Attention, ne parlez plus, ne chantez plus. Les Polonais, c'était le roi de faire de théâtre. Parce qu'il y avait un théâtre qui a été fait, une baraque, qu'ils ont construit, les mêmes prisonniers, pour faire un spectacle. Et ils faisaient des spectacles fantastiques. Il y avait un coum qui, il parlait toute la langue. Et c'est lui qui organisait, il détectait les talents qu'il y avait. Parce que c'était des musiciens, et il y avait des forts. Les autres parce que c'était des acteurs. Les autres parce que c'était dans le cinéma, de peinture, tous les arts qu'il y avait dedans. Et lui, alors, il présentait des spectacles magnifiques. C'est cool. Alors là, on lui a demandé un jour, il faut savoir. Et nous étions, parce qu'il y en a deux de plus, catalans, qui sont rentrés chez nous. Et nous étions quatre, avec la même disposition que nous, qui étaient aussi déserteurs, et même les idiots. Nous étions de républicains, partis sur tout, pas de partidisme, quoi. Et alors, on lui demande tout de quatre, parce qu'on était la baraque qui était, là, il avait un bahut, ou comme ça. Il a ouvert, il y avait tout un attirail de travail. Ça, ce sont mes outils. Il y avait tout, violon, il y avait tout. Alors, il nous dit, mais, vous parlez tellement bien l'espagnol, vous parlez tellement bien le français, non, pas. Mais, mais oui, je suis de chez vous. Je suis de Barcelone, mais en catalan. Il a dit, moi, vous savez pas comment je suis arrivé ici, en quatre mois. J'étais à Moscou quand la guerre mondiale a commencé, pour mon travail. J'ai mis, jusqu'à maintenant, quoi, jusqu'à la fin de la guerre, pour traverser toute l'Europe, de camp en camp. Et j'arrive en France, je me dis, ça y est, l'Espagne à côté. Pas à pas. Noé. Mais il n'a pas protesté. Il a dit comme presque en rigolant. Parce que lui, il nous donnait du courage. Son travail, c'est un travail magnifique. Et bébé, il jouait un piano qui manquait bien, bien une douzaine de touches. Il jouait la danse del fuego, la danse du feu de falla. Tellement, comment dire, paradoxal. Tout était paradoxe. Trois mois, comme ça. Disons qu'on s'est adapté par les forces de choses, quoi. Parce que toutes les campagnes qu'il y a autour, tout était gardé, tout était entouré dans un terrain qui était magnifique. Mais c'était vraiment très hasardé de mettre le nez dehors, hein. Il y a eu un cas, quelqu'un qui était un gitane, qui était avec nous. Il était plus âgé que nous, hein. Il devait être lui, il y a la cinquantaine. Et c'est le premier qui nous a dit, vous êtes rentré ici, vous ne sortirez plus. Et on le voyait qu'il était en peine, parce que c'est vrai qu'il était seul, comme gitane. Et on le voyait triste. Et un soir, vers 10h du soir, déjà qu'ils avaient sonné comme à la caserne, la séance. On entend des cris et des coups, et des cris et des coups. Et une baraque s'est passée pas loin de nous. Et on a pensé à lui, parce que son lit, son truc, n'était pas. Et au bout d'un bon moment, il rentrait, il laissait là. Une tentative d'évasion. Il a été battu, comme il faut. Nous ne l'avons pas vu, parce qu'avant qu'il fasse jour, ils l'ont récupéré et disparu. Jamais vu, jamais. Ça pour faire comprendre que cette aventure, il ne fallait pas la faire. Mais, bon, il y avait eu une facilité de sortir ce personnel, si vous voulez, et s'engager pour 5 ans à la Légion. Étant donné l'état de famine qui ne pouvait plus tenir, et que, à un moment donné, quand il s'est présenté cette occasion, alors, ils ont dit, la plupart qui voulaient partir, qui ne pouvaient plus, a préféré. Il te disait, je préfère mourir d'une balle. Parce que, il savait bien que, dans les lieux, qu'il s'allait tomber. Voilà. Si vous voulez la liberté de solliciter et de choisir la Légion française, était là pour pouvoir le récupérer. On a entendu des camions qui partaient, et, je sais pas, deux ou trois camions, quoi. Maintenant, je ne peux pas dire le nombre. Ils sont partis. Moi, je n'avais à côté qu'il est parti, et moi, je disais, ne pars pas. Ne pars pas, parce que là, la guerre est finie. Bon, il n'y a pas longtemps que finie. Mais la guerre est finie, on ne peut pas nous garder, toujours. Toi, mais toi, tu as ton père, moi, j'ai personne. Mais il y aura un moment où tout s'améliorera. Quoi. Parce que c'est vrai, ça il faudrait pas oublier qu'il y avait quand même une pénurie. C'était 45, 46, hein. C'était vraiment une mauvaise posture, quoi, vous savez. Mais bon. Et là, j'ai pas pu le convaincre. Et il est parti. Voilà. Disons, bon, ça c'est pour dire l'état de certains qu'ils ont vécu d'une façon très mal. Très mal. Il y avait aussi des rumeurs. Il y avait des rumeurs qu'ils allaient instaurer, comme ils ont fait dans le camp de Barcarès et Orgelès, des compagnies de travail. Et ça, l'expérience de nos parents, mon père même, il m'a dit, si jamais on te propose ça, no signa pas, surtout pas. Je suis sorti du camp le 30, au lieu de sortir le 31 març. Parce que el 31 març était un dimanche, i le bureau était fermé de camp. Oui, voilà, oui. Et je savais que ens juraven de partir, je savais que je sortiré la fin de mois, parce qu'ils m'ont fait signer. Je puis sortir le juraven. Et dans la nuit, dans le tren, j'arrivais à 1h du matin. Mon père, à 1h du matin, m'attendait à la gare, il était tout seul, attendant, et va, on commence déjà. Alors, ben, je racontais, surtout, la première nuit, je crois qu'on n'a pas dormi, tout, on ne pouvait pas dormir. Je suis touché par la chance que j'ai eue de vivre tout ça, parce que toujours ça a été fort. J'ai souffert, mais j'étais aussi très heureux, très heureux.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de 3 générations, avec Emilio Valsepuig. Témoignage recueilli par Manuel Plaza, musique originale Guillaume Séguron, un documentaire de Mélanie Charpentier et Bruce Torrent, Radio Clapas. Mémoire des républicains espagnols, une série coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales et la région Languedoc-Roussillon, direction de la culture et du patrimoine.